Notre étude, c'est l'histoire du salut, OK? Et l'histoire du salut, c'est sûr, vous voyez dans la Bible que c'est progressif, l'histoire du salut, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais on est en train d'étudier maintenant, de façon progressive aussi, dans l'Évangile selon Luc, tout ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit, le rôle de l'Esprit. On va voir, c'est sûr, on va voir quelques aspects en ce qui concerne aussi le rôle de l'Esprit. Pour la vie du croyant aussi, donc on va toucher quelques aspects aussi. Mais c'est surtout le rôle dans l'histoire du salut. C'est surtout l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Comment ça s'est déroulé? Bien sûr, on répète encore que c'est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qu'on voit l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit est au premier plan quand on voit les actes des apôtres. Et puis maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, par sa grâce, nous avons reçu l'Esprit. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qui concerne aussi le baptême du Saint-Esprit, qui est arrivé à la Pentecôte, par les promesses que Dieu avait faites par ses prophètes. Donc, on va encore continuer dans ce thème-là. Comme je l'avais mentionné aussi, on va voir ce que l'apôtre Jean nous parle en ce qui concerne aussi de ce que nous étudions. Et dans l'Évangile selon Jean. Donc, surtout, on va se concentrer sur le chapitre 14 à 16. Mais pour l'instant, on est encore dans l'étude de Luc. Et Luc comprend deux livres, c'est ça? L'Évangile selon Luc et les Actes des apôtres. Donc, on va se promener dans les Actes et dans Luc aussi pour la suite de notre étude. Mais juste un rappel, on a vu la semaine passée l'onction de Jésus. Il a été oint, l'onction, il parle de ça. Le serviteur du Seigneur, on avait parlé que Jésus est le serviteur du Seigneur. Et ce nom, on le trouve dans les prophètes. Et surtout, je crois que c'est seulement le serviteur du Seigneur, c'est Ésaïe qui nous parle. On a parlé du chant des serviteurs dans plusieurs chapitres d'Ésaïe. Donc, on voit maintenant que ça s'accomplit en Jésus, l'onction de Jésus comme serviteur du Seigneur. Lors de son baptême, l'Esprit descend et demeure sur Jésus. On a vu ça dans Luc 3, 22. Et cet événement accomplit la prophétie d'Ésaïe. Dans le chapitre 61, on avait aussi lu des gros passages la semaine passée. Et on a lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. C'est qui parle? C'est Ésaïe, OK? Mais Jésus fait parole, ses paroles propres à lui, là. OK? Lors de la synagogue, il est en train d'enseigner, puis ouvre le rouleau d'Ésaïe, justement, puis il lit ses paroles, puis il dit, ce jour-là, cette prophétie s'applique en moi, c'est accompli en moi. Donc, c'est sûr, là, que c'est Jésus, le serviteur duquel Ésaïe parlait. Donc, Jésus est consacré à cause de son baptême, à cause de ce qui a été oint par le Saint-Esprit, et consacré pour accomplir sa mission de nous sauver, la mission du salut. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Le ministère de Jésus aussi, par la puissance de l'Esprit, on voit surtout et Luc nous parle, la puissance, et Actes aussi, la puissance de l'Esprit. Et Jésus agit par l'Esprit dans Actes 10, 38. Et il vient pour un ministère prophétique. Il parle et agit sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, sa fonction est de révéler, en ce qui concerne son ministère prophétique, c'est de révéler pleinement la volonté de Dieu. Je pense qu'on le voit dans ses enseignements. Puis il le répète, hein, je viens faire la volonté de mon Père, plusieurs fois dans Jean. Et tous ces enseignements ici, il dit même, il arrive à dire, Jésus même, qu'il dit que ce qu'il il parle, il dit même, ça ne sort pas de moi, c'est mon Père qui me dit quoi faire. Donc on voit la soumission de Jésus, sachant même qu'il est Dieu lui-même, là, mais il se soumet au Père, puis il transmet le message. Il a ce rôle prophétique, là, de parler avec autorité divine. Et d'annoncer les desseins futurs du royaume. On l'a vu dans les messages aussi, et justement la semaine passée, et que Jésus est considéré comme un prophète. Mais ce n'est pas juste un prophète, c'est le prophète. Le prophète qui parlait les Écritures. Qui annonce ce prophète, c'est Moïse lui-même, vous vous rappelez quand il dit « Je vous enverrai un prophète comme moi », il dit. Mais en tout cas, Dieu allait envoyer le prophète avec L majuscule et P majuscule. Donc il y a aussi un ministère associé à ça avec son rôle prophétique, au ministère prophétique, il y a aussi le ministère libérateur, si on peut dire. Il guérit, il délivre, restaure. Ces miracles sont les signes du salut qu'il apporte. Donc un ministère des libérations qui ne se limite pas juste aux guérisons physiques ou même aux résurrections. Là. Et Jésus déclare souvent, ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé. Le mot est le même, là, mais il dit ta foi. Après avoir guéri quelqu'un, il dit ta foi t'a sauvé même, il dit. Donc par l'esprit qui repose sur les serviteurs, et de Dieu, sur le serviteur de l'Éternel, si on peut dire, qui repose sur lui, Jésus libère. On l'a chanté tantôt, libère réellement des hommes et des femmes. Donc, il les sauve. Le salut est manifesté par l'Esprit, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, la foi ouvre la guérison spirituelle. C'est ça. On a donné des exemples aussi, le lépreux, reconnaissant, vous vous rappelez, le seul lépreux qui est revenu des 10, là, il a dit... Jésus a dit, bon, ta foi t'a sauvé, la même à la femme pécheresse aussi, qui l'est pardonnée aussi, ta foi t'a sauvé, ou paralysée aussi. Donc, on pourrait encore trouver d'autres versets, d'autres événements où Jésus déclare que ces gens-là sont sauvés. On avait donné l'exemple de qui aussi? Celui qui était sur l'arbre? C'est ça. Sachez aussi, aujourd'hui, le salut est rentré à, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'expression? Dans ta maison. Pensez-vous que Jésus parle du salut à Zachée? Oui, hein? il a cru, il a été sauvé. Puis est-ce qu'il a porté des fruits? Il a donné des fruits à Zachée? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, c'est ça. Il a promis même qu'il allait payer s'il avait fait tort à quelqu'un. Donc l'esprit opère une transformation intérieure, on pourrait dire la régénération aussi, une transformation intérieure, conversion. Et un cœur nouveau. Même avant la Pentecôte. Justement, on a vu aussi la promesse de la Pentecôte. Jésus annonce, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le langage qu'utilise l'Évangile selon Luc. Comment il s'appelle? Matthieu le mentionne aussi. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes 1 aussi, il le répète, 4 à 5. Il demande aux disciples d'attendre, il dit d'attendre la promesse du Père. Quelle est cette promesse-là? Le Saint-Esprit. D'où on sait, justement on va voir ce qui est écrit dans Jean. Je suis fait allusion aux promesses de l'Ancien Testament et aussi aux enseignements des gens de 14 à 16 que Jésus a prononcé, a dit à ses... Et c'est unique pour l'Évangile selon Jean, là, cet épisode-là, où il parle du Consolateur, qui va envoyer après sa mort, même après sa résurrection. Donc, ça, c'est un peu le résumé qu'on avait vu la semaine passée, on n'avait pas fini. Donc, justement, on va voir ce qui concerne dans Luc l'annonce du baptême dans l'Esprit. OK? Donc, on va voir dans Luc 3, 16 à 17, si vous avez votre Bible aussi, vous pouvez l'ouvrir, mais on peut le lire aussi. Donc, Jean-Baptiste avait déclaré, c'est Jean-Baptiste qui parle, il leur répondit à tous, il dit, moi je vous baptise d'eau, ce qu'il dit Jean-Baptiste, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de lier la courroie de ses sandales. Là, déjà on voit l'humilité de Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera de quoi? D'Esprit Saint. Et de feu, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, et de feu. Des autres évangiles, à part Matthieu, je crois qu'il parle juste de l'Esprit Saint. OK, mais Luc rajoute cet aspect-là du feu. Est-ce qu'il fait allusion au feu, les langues qui sont venues le jour de la Pentecôte? Et en tous les cas, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé de son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que la suite-là n'est pas en train de nous dire que peut-être il parle aussi un peu cet aspect-là du feu. Le feu purifie. Hein? Donc on va le voir, on va voir d'autres versets qui nous parlent, le feu qui purifie aussi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il vous baptisera. Qui ça, il vous baptisera? Dieu? Qui va baptiser du Saint-Esprit? C'est Jésus qui va baptiser du Saint-Esprit. Mais comment il va faire? Il va le faire après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, mais il fallait qu'il meure pour que les chrétiens, les croyants de la nouvelle alliance puissent être baptisés dans l'Esprit. Donc on va le voir, et l'Esprit Saint est de feu. Dans Matthieu, moi je vous baptise d'eau, c'est Jésus qui parle, pour vous amener à la repentance. Non, c'est pardon, c'est Jean-Baptiste, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant, donc il vous baptisera des Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est Matthieu encore, mais Marc, il dit, mais moi, je vous ai baptisé d'eau. C'est Jésus maintenant qui parle. Et lui, il vous baptisera, il parle de Jésus, pardon, du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste parle de Jésus en disant qu'il va vous baptiser de Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc, c'est dans Marc 1, 8 et dans Jean 1, 33, je ne les connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit. Donc, c'est encore Jean-Baptiste qui parle en parlant de Dieu. Il a donné ce ministère-là. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est clair, hein? C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est Jean 1, 33. Okay? Donc, c'est celui qui baptise. Quand il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jean qui dit ça. De lui-même, il dit qu'il c'est lui qui baptise dans Jean. Évangile selon Jean 1, 33. Donc, ce baptême dans l'Esprit est présenté comme une œuvre seule, donc que seul le Messie peut accomplir. Il s'agit donc d'un acte futur lié à la nouvelle œuvre de Christ. Accomplir la banquette, pardon, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi, là. Pardon. Donc, Luc mentionne les paroles de Jésus dans Acte 1, 5. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Là, il est en train d'annoncer le baptême du Saint-Esprit, mais en même temps, quand est-ce que ça arrive, ce baptême du Saint-Esprit? C'est le jour de la Pentecôte. Donc, l'expression de Jean-Baptiste baptisé d'Esprit est une métaphore rappelant les images de l'Ancien Testament décrivant l'œuvre eschatologique, c'est-à-dire les choses qui vont arriver après, dans le temps de l'Ancien Testament, en ce qui concerne l'Esprit. Et c'est drôle parce que. C'est drôle, non? Tout concorde. Hein? Richard a cité plusieurs de ces versets qu'on est en train d'étudier en ce qui concerne l'Esprit, en ce qui concerne un peu l'image de l'eau qui purifie. Donc, Ésaïe 32, 15, il dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, sur nous. Ésaïe est en train de, en quelque sorte, parler de ce baptême du Saint-Esprit, par des images, d'en haut. Et ça nous fait penser un peu, vous rappelez l'entretien de Jésus avec Nicodème, il faut naître de nouveau, mais en fait, le mot qu'il utilise, oui, ici, il faut naître d'en haut. Sur nous, et que le désert s'échange en verger, et que le verger fasse penser à une forêt. Donc, c'est encore l'allusion à l'eau qui purifie, à l'eau qui lave. Ézéchiel aussi, je ferai sur vous l'aspersion, ou je répandrai, il dit, l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est encore là en parlant de ce qui allait se passer le jour de la Pentecôte. Zacharie en mentionne aussi, à ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David. Et les habitants de Jérusalem, à cause du péché et de la souillure. Donc, une source sera ouverte dans la maison de David. Qui est en train de parler? Du descendant de David, du petit reste qu'on avait parlé déjà dans l'Ancien Testament. Donc, Zacharie en mentionne, il fait mention d'une source sera ouverte. Vous voyez toutes les images là, un peu baptisées du Saint-Esprit, en ce qui concerne l'Esprit. Jean-Baptiste ajoute, il vous baptisera de feu. Le feu symbolise aussi la purification. Plusieurs versets, je crois, qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le feu qui dévore. Est-ce que, pour ceux qui ont une bonne mémoire, est-ce que Hébreux, il parle aussi que Dieu est un feu dévorant? Je crois, non? Je crois que oui, hein? L'Épître aux Hébreux, oui. En citant, c'est sûr, et l'Ancien Testament. Donc, dans Zacharie, on lit, « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le ferai fondre comme on fonde l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or et ils invoqueront mon nom. Et je l'exorcerai, je dirai, c'est lui qui est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » On voit l'image du feu, hein? Dans Malachie aussi. « Car il est comme le feu du fondeur. » Même on le chante des fois, en faisant allusion. « Feu du fondeur comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera de celui qui fond et purifie l'argent. » Vraiment, il est en train de cette œuvre du Messie, là, pour le futur, et Malachie aussi. Donc, le baptême dans l'Esprit, en Luc, annonce une œuvre purificatrice de l'Esprit, donnée par Jésus, qui commence avec la régénération. C'est sûr que l'Esprit travaille dans celui qui croit, et se poursuit dans la sanctification. On verra ça aussi, cet aspect-là de l'Esprit, dans les prochaines leçons. Donc, le baptême dans l'Esprit et dans le feu, comme le mentionne aussi Luc, pourrait donc avoir un double effet. La purification pour les croyants et le jugement ou le châtiment pour les incrédules. Quand il parle de ce baptême-là, il va venir vous baptiser d'eau et de feu, aussi d'esprit et de feu aussi. Donc, il pourrait aussi faire allusion... Et quand il parle du feu pour les croyants, okay, un double effet, le jugement et le châtiment pour les incrédules. On voit des fois ces doubles effets, hein, dans l'Écriture du baptême de l'Esprit. Il nous fait penser un peu à l'image de la pierre angulaire. Si vous pouvez ouvrir peut-être vos Bibles dans 1 Pierre 2, 5, 8, on peut peut-être voir, puis vous allez voir un peu le contraste. Hein, et puis un peu la comparaison qui fait Pierre dans cet épître, 1 Pierre 2, 5 à 8. 1 Pierre 2, 5 à 8. Vous voyez, on va voir le double effet. Et vous-même, il dit, vous avez dans vos Bibles, 1 Pierre 2, 5 à 8, c'est correct? Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, à qui il parle? À l'Église, à des frères. Vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il emploie un langage très... de l'Ancien Testament. Hein? Okay? Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Qui est cette pierre? Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, cette même pierre, qui est la pierre angulaire, est aussi une pierre d'achoppement, un rocher, un scandale. Il s'y achoppe en désobéissant la parole. Et c'est à quoi ils ont été destiné. Donc, vous voyez le double effet qu'il y a à cette pierre, c'est un peu comme aussi le fait le baptême de l'Esprit. Puis on va le voir dans le jour de la Pentecôte. Donc, le résultat de ce baptême de l'Esprit, la formation c'est la formation de nouveaux peuples, on va le voir aussi plus tard, plus tranquillement dans ce qui concerne la Pentecôte et aussi, et après la Pentecôte, la formation de nouveaux peuples, de la nouvelle alliance, purifiée du péché, animée par l'Esprit, réalisant les promesses annoncées par les prophètes. On peut voir aussi un peuple des justes pardonnés, connaissant le Seigneur. Dans Ésaïe 54, 13, on le voit, dans Ésaïe 60, 21, et même dans Jérémie. On a déjà vu tous ces passages-là dans l'Ancien Testament. C'est un peuple des justes pardonnés. Ésaïe parle, il dit tous tes fils seront disciples, dit Ésaïe. Il emploie ce mot-là, ces disciples de l'Éternel, il dit. Et dans Ésaïe 60, il dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont tous les pays. Et c'est le rejeton que j'ai planté, il parle vraiment du rejeton de David, l'œuvre de mes mains pour servir à mes splendeurs. Ou Ésaïe 31 aussi, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant qu'on est l'Éternel, parce que tous me connaîtront, il dit, depuis le plus petit entre eux jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est en faisant allusion à ce qui va se passer après. Donc ça, on voit, vous voyez, la formation du nouveau peuple, des justes, pardonnés, connaissant le Seigneur. Êtes-vous juste, vous?
Oui.
Mais le Nouveau Testament emploie le langage pour parler aussi des croyants, des justes. C'est juste, mais c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Mais c'est ça, est-ce que vous êtes des pardonnés? Oui. On est des pardonnés par la grâce de Dieu. On a eu ce pardon de nos péchés. On connaît le Seigneur? Oui. J'aimais la phrase que Richard a dit dimanche passé, dimanche avant. Il ne s'agit pas juste de connaître des choses par rapport à Dieu, des choses de Dieu. Quand on lit la Bible, on connaît des choses en ce qui concerne Dieu, c'est vrai? Oui, mais l'affaire, c'est de connaître Dieu personnellement. Et ça, c'est quoi? Une relation personnelle. Quand on ouvre sa parole, puis on lit, on connaît, on a une relation avec Dieu. Souvent, quand on fait de l'évangélisation, et les gens acceptent, font profession des fois, souvent on leur dit que c'est important de prier. Et nous, on a une relation avec Dieu. C'est important, la relation avec Dieu. Et grâce à Jésus, on peut avoir une relation personnelle, pas une religion, une relation personnelle. Nous parlons par la prière à Dieu, mais comment il nous parle? Il nous parle par sa parole. Et on connaît davantage Dieu parce qu'il nous parle par sa parole. Donc, on est un peuple des justes, pardonnés, connaissant le Seigneur. Mais Luc aussi nous parle de notre baptême. On a déjà vu que Jésus même mentionne, il dit, il est en baptême, donc je dois être baptisé. Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. De quoi il parle? S'il a déjà été baptisé, là. Il parle, oui, il parle de sa mort, le baptême. Qu'il doit, les paroles de Jésus, il dit que je dois être baptisé et combien je suis pressé pour qu'il soit accompli. En tout cas, on voit vraiment l'amour pour nous, pour les pécheurs. Il veut le faire, sachant qu'il allait souffrir pour nous, mais il est pressé pour le faire un peu. Ça me fait penser un peu quand il célèbre le repas du Seigneur et j'ai tant voulu avoir ce repas avec vous. Il sachant même qu'il était tout près de la mort, mais après ça s'en vient, la Gethsémané, là où le Seigneur demande à Dieu, si c'est possible, passe de moi cette coupe-là, mais que ta volonté soit faite avant la mienne. Donc Jésus devait d'abord passer par le baptême qui constituait sa mort, et c'est une étape nécessaire avant que le Saint-Esprit soit répandu. Donc Luc ne le dit pas clairement, mais dans son livre, on trouve des indices qui montrent pourquoi la mort de Jésus est nécessaire. Et je parle était nécessaire en ce qui concerne le don de l'Esprit. Je parle dans cet aspect-là. Okay? Parce que oui, Jésus dit que sa mort est nécessaire. Pourquoi? Pour nous sauver. Oui, plusieurs fois, il le dit. C'est nécessaire que je puisse passer par la croix. Mais en ce qui concerne l'Esprit, ce n'est pas clair. Donc, le pardon des péchés est lié au don du Saint-Esprit. Et ce pardon n'est possible que grâce à la mort de Jésus. Ok, ce pardon-là n'est possible que grâce à la mort de Jésus. Vous êtes tous d'accord, je crois, de dire que Jésus, il fallait qu'il meure là, pour que tous nos péchés soient pardonnés et pour que les premiers chrétiens puissent recevoir le Saint-Esprit. Pardon, je regarde beaucoup le mur, mais il n'y a plus d'horloge. Il faut que je check l'heure, là. OK. Donc, le lien entre la mort, la résurrection de Christ et le pardon des péchés. Il y a quand même un lien clair dans Actes 5, 30 à 32. C'est Pierre qui parle, OK, lors d'un discours devant le Sanhédrin même. Et il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant du bois. Là, il est en train de parler du sacrifice de Jésus. Il est déjà passé au bois et l'a élevé. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. On va le voir tantôt, cet aspect-là. Pourquoi? Il fallait ça pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Là, il parle, on est encore, Jésus est venu vers les siens, vous vous rappelez. Et là, quand il dit le pardon des péchés pour Israël, mais on voit que ce pardon, ce n'est pas juste pour Israël, là, c'est pour tous ceux qui vont croire. Et là, il mentionne pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins, dit Pierre, de ces choses-là, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Là, il est en train de parler en passé, c'est déjà arrivé. Après la mort, après qu'il pardonne les péchés, il dit le Saint-Esprit qui a été donné à ceux qui lui obéissent. Donc, quand Pierre mentionne ça, mentionne cela, la Pentecôte est déjà arrivée, le Saint-Esprit est déjà, l'Église est déjà née. Donc, la mort et la résurrection du Christ sont le fondement du pardon des péchés et du don du Saint-Esprit. Encore là. C'est encore plus proche de la Pentecôte. Là. Pierre, là, après, ça c'est le discours de Pierre. Là, okay? Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ben, comment on ferait, puis Pierre leur dit, repentez-vous, il dit, et vous recevrez, et avant il faut faire quoi? Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Okay, il dit, repentez-vous pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, tout c'est comment on dit ça là, un package. Hein? Il faut se repentir. Il faut vraiment reconnaître Jésus comme son sauveur pour recevoir le don du Saint-Esprit. En fait, être baptisé par l'Esprit. Avez-vous déjà été baptisé dans l'Esprit ou par l'Esprit? Oui, j'espère que oui. Sinon, ben, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le jour, là, dit la parole de Dieu. En fait, ça revient à dire qu'on a donné notre vie à Dieu. On a ce langage, accepter Jésus comme mon sauveur. Recevoir Jésus comme mon sauveur. Je pense que tous ici l'ont fait. Donc, vous avez reçu le pardon du péché et vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Donc maintenant, on va se concentrer plutôt le jour, vraiment dans Luc, dans Actes, pardon, Luc nous dit le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit, dans Actes 2 à 11. Donc le récit commence par « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Est-ce qu'on peut aller voir, justement, on est en train d'étudier l'œuvre du Saint-Esprit, ce que l'Esprit a fait dans toute l'histoire du salut, ok? Mais cette date-là, même si on ne la sait pas, la date, mais cette date-là qui est dans la parole de Dieu, est très importante, parce que c'est là que l'Église de Christ, l'Église, nous sommes, l'Église de Dieu est née. Le nouveau Israël, si on peut dire, l'Israël de Dieu, comme dit Paul aussi. Allons dans Actes 2, s'il vous plaît. Actes 2, 1 à 11. Qu'est-ce qui arrive du verset 1 à 11, là? On voit l'arrivée du Saint-Esprit qu'il se pose. C'est vraiment très visuel, hein? Ceux qui étaient réunis. Il dit tous qui étaient là, et ont reçu le Saint-Esprit. OK? Et la promesse s'est adressée à tous ceux qui étaient réunis là. Donc, qu'est-ce qu'on peut peut-être résumer de ce passage-là? Ils étaient tous ensemble. Le mot « tous » peut désigner... Okay, je vous invite à peut-être à la maison, cette semaine, de lire le chapitre 1 à 2, okay, des Actes des apôtres. J'ai vu quelque chose qui, en tout cas, ça aide ou ça nous aide plus à comprendre l'importance du Saint-Esprit qui est venu, okay, et le jour, et même le ministère apostolique, okay, parce que c'est tout cela peut désigner soit les 120, vous vous rappelez les 120 disciples au début, mentionnés dans Actes 1, 14, okay, qui étaient avec Pierre, et soit les 12. Ça peut aussi avoir parlé des 12 apôtres mentionnés juste avant, là, 1, 26. Okay, donc seulement les 12, là. Et ça peut pouvoir est en train de dire ça, il peut pouvoir être en train de dire ça, Luc, là. Mais si vous voyez, là, vous allez voir, quand il est avec les 120, pourquoi ils sont avec les 120 réunis, Pierre, si vous vous rappelez un petit peu, au début, qu'est-ce qu'ils font? Et voyez, si vous lisez le passage 1 à 2, OK, vous allez voir qu'il fait mention beaucoup aux 12, OK, aux 12 disciples, OK, et l'importance de leur ministère apostolique. Paul, on va voir plus tard, il attribue vraiment le fondement, ce sont les apôtres. OK? Puis, et on voit que les 120 sont mentionnés. Pourquoi? Parce qu'il fallait remplacer qui? Et c'est Luc qui fait cette... il raconte ces événements. Hein? C'est juste Luc qui raconte ces événements. C'est là qu'on voit comment la parole de Dieu se complète, là. Okay, avec les quatre évangiles. Mais qu'est-ce qu'il dit Luc là? Ils veulent choisir qui? Matthias. Pourquoi il fallait remplacer qui? Judas. Parce qu'il avait, bon, il était mort. Puis même Pierre, il parle de sa mort, même qui était déjà annoncée. Et il est remplacé par Matthias. Et c'est après ça là qu'il vient le don du Saint-Esprit. Donc on dirait que Luc veut nous faire savoir que vraiment il fallait que ce soit 12 là, et ces disciples là qui puissent commencer ce ministère apostolique. Donc mais il parle aussi des 120 qui sont réunis. Mais je vous invite à lire les deux premiers chapitres. Donc qu'est-ce qu'on peut résumer? Les personnes présentées ou présentes sont remplies du Saint-Esprit, tous ceux qui sont présents. Et elles se mettent à parler en diverses langues. Là, on le dit, on le voit qu'ils parlent des langues, ils parlent des secteurs aussi. Là, les gens, ils sont en train d'entendre dans leur propre langue. C'est comme si quelqu'un qui est juif, là, qui d'une minute à l'autre commence à parler dans votre langue, et vous comprenez. Donc, Luc nous dit que les autres se moquaient en disant ils sont pleins de vin doux. C'est-à-dire qu'ils sont... Et en plus, Pierre spécifie que c'est juste la troisième heure, là, je crois. Donc, c'est possible que ce soit le cas. Mais parce que le fait, c'est que c'est un... Ils sont dans l'étonnement, ces gens-là. Voir parler dans leur propre langue. Puis... C'est pour ça qu'après, après la Pentecôte, le discours de Pierre, on le voit dans Acte 2, 14 à 41. Donc là, il est rempli encore. Puis on pourrait le lire, mais là, c'est trop long pour le lire. Pour le lire chez vous, là. Mais il y a plusieurs aspects, là. Pierre commence à parler, et justement, à dire, il profite de ce commentaire que ces gens font pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé vraiment à la Pentecôte. C'est bon, la parole de Dieu, moi, quand je lis ce récit-là, c'est magnifique, parce que non seulement on voit le jour de la Pentecôte, là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, la venue du Saint-Esprit, qui avait été promis, okay, par les prophètes dans l'Ancien Testament, et non seulement on voit ça aussi, mais on voit un peu l'explication que Pierre donne à ce qui est en train de, de se passer. À cause de quoi? À cause de ce commentaire des gens qui ont fait. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Par lui-même, il dit, bon, je vais vous dire, non, il dit, rempli encore du Saint-Esprit, il commence ces discours-là. Il explique l'événement accompli. Il cite le prophète Joël. Vous vous rappelez, on a parlé, il y a quelques leçons, on a parlé de la prophétie de Joël. Je pense que c'est la première qu'on avait, mentionnée. Okay, que le Saint-Esprit viendrait sur toute chair. Là. Donc Dieu répand son esprit sur toute chair. Et Pierre fait mention aussi. Donc l'annonce que Jésus de Nazareth crucifié selon le plan de Dieu. C'est ce que Pierre dit aussi, qu'il annonce que Jésus a été mis à mort selon le plan, selon le dessein de Dieu pour le salut. Il a été ressuscité aussi, il est élevé à la droite du Père. Donc, vous voyez, il mentionne tous les aspects là, du ministère de Jésus. Cette position de Jésus élevée, il répand le Saint-Esprit, preuve qu'il est le Seigneur et le Christ. C'est-à-dire qui? C'est le Messie. Et c'est lui qui répand le Saint-Esprit. Et c'est Pierre qui le dit. Donc, le peuple est touché. Ce peuple-là est touché, quelques-uns, là. Peut-être ceux-mêmes qui avaient dit « sont remplis de vin doux », là, ils sont touchés, là. Si vous lisez tout le... Et vous le connaissez déjà, je pense que vous l'avez lu plusieurs fois. Pierre leur dit « c'est à cause de vous qu'il est mort ». Mais là, ils se sentent coupables et ils sont touchés. Touchés par qui, vous pensez? Par le Saint-Esprit. Oui, c'est là qu'on voit aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans ces gens-là. Et ils se demandent « que ferons-nous ?» Et Pierre appelait... Appel à la repentance et au baptême au nom de Jésus pour recevoir le pardon et recevoir aussi le don du Saint-Esprit. Et combien ils sont sauvés ces jours-là? Et ils sont probablement baptisés aussi, comme dit la parole? 3 000. 3 000 ces jours-là. C'est là qu'on voit la naissance de l'Église. Mais l'Église est déjà commencée avec ceux qui ont été baptisés par le feu, par les langues. Mais là, il se rajoute combien? 3 000. Après, ils vont arriver jusqu'à 5 000. Et on voit vraiment ce jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un jour historique dans l'histoire du salut. C'est la venue du Saint-Esprit. De façon temporaire, comme on l'avait vu dans l'Ancien Testament, non, de façon permanente. On aura toujours le Saint-Esprit en nous. C'est sûr qu'on va... On va encore parler de ça. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est quoi? En nous, le chrétien, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est le?
Consolateur.
Le consolateur, mais par rapport à notre salut, c'est? Il y a un mot qui utilise les arts, la garantie qu'on est sauvé. Puis il parle aussi du sceau, hein? Du sceau du Saint-Esprit. Donc, on a cette garantie-là. On a le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en ce jour-là, 3 000 personnes ont été baptisées, ont été sauvées. Donc, la Pentecôte est un événement de l'histoire du salut qui découle de la mort, de la résurrection, de l'ascension, comme on l'a vu, comme on le voit dans le chapitre 2, dans le discours de Pierre, là, l'ascension et du fait que Jésus est assis à la droite du Père. Donc, on voit Pierre prononcer pour expliquer l'événement et dans son discours. Il proclame, si on peut dire, l'intronisation de Jésus comme Messie. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 5:31. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu l'a élevé, dit. Si vous avez votre Bible ouverte, là, dans ce passage-là, 5:31, il dit, Pierre est encore en train de parler devant le Sanhédrin encore, là. Et il dit, Dieu l'a élevé, en parlant de qui? De Jésus. Dieu l'a élevé par sa droite. OK? Il l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince, ça veut dire comme chef suprême, souverain. C'est-à-dire, il est en train de dire que comme roi, comme messie, il a élevé par sa droite. Donc, c'est en tant que Messie intronisé, donc c'est sur le trône, régnant sur son peuple à la droite du Père, que Jésus a répandu l'Esprit le jour de la Pentecôte. On a quelques allusions dans le Nouveau Testament. Dans Tite, on lit, il nous a sauvés, c'est Paul qui écrit, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, à cause de sa grâce, par le bain, encore là, vous voyez l'allusion, bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Faisant allusion, c'est par Jésus qu'il a versé son esprit sur nous. Donc l'idée que le Saint-Esprit procède, okay, du Père est conforme aux enseignements même de Jésus. Okay? Il procède, c'est vrai, il procède du Père. Dans Jean 14, 16, je vais le lire, je l'ai devant moi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Un autre consolateur comme lui, là. Je prierai le Père et il vous donnera, ok, il parle du Père. Mais dans 15, 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai. Qui parle? C'est Jésus lui-même qui dit, je vous enverrai et de la part du Père. Là, c'est plus clair. Là. De la part du Père, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui provient du Père, il dit. Il rendra témoignage de moi. Mais c'est Jésus aussi qui l'envoie, ce Saint-Esprit. C'est le Messie qui règne, qui envoie le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 7, il dit, il est avantageux pour vous que je parte. On va encore étudier ce passage-là quand on sera rendu à l'Évangile selon Jean. Mais quand je parte, car si je ne pars pas, dit Jésus, le Consolateur, qui est le Consolateur? C'est le Saint-Esprit. Ne viendra pas vers vous si je ne pars, il dit. C'est-à-dire, s'il ne meurt pas, il ne viendra pas. C'est impossible. Donc, il faut que je passe par la croix. Il ne viendra pas, mais il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, quand il dit je m'en vais, c'est sûr qu'il doit passer par la mort, par le sacrifice. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui l'envoie? C'est encore Jésus. Après avoir passé par la mort, la résurrection, il dit, je vous l'enverrai. Lui-même, il va envoyer le Saint-Esprit. Donc, rappelez-nous que c'est Jésus qui dit aussi dans Marc 24, 49, qu'on a lu, il dit, et voici, j'enverrai, il dit, sur vous, ce que mon Père a promis. Le Père avait promis. Il fait allusion aux promesses qui a été faites dans l'Ancien Testament en ce qui concerne la venue de l'Esprit. Il dit, c'est que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quoi cette puissance d'en haut? C'est le Saint-Esprit. OK? Donc, je vous enverrai. Donc, du fait que Jésus a reçu le Saint-Esprit du Père et l'a répandu sur les siens à la Pentecôte, dans Actes 2, 33, l'Esprit est désormais considéré comme l'Esprit de Jésus aussi. Il y a un passage particulier dans Actes 16, 17, là. Il dit, arrivé près de la Mysie, c'est Paul qui est en train de faire ses voyages, là. Je ne sais pas s'il est rendu à son 12e voyage, peut-être. On est dans Actes 16, peut-être, oui. Puis là, ici, ils tentèrent d'aller vers la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Donc, c'est l'Esprit de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit, oui. Mais il dit l'Esprit de Jésus et ne le permet pas. Donc, cela implique que toutes les activités de Luc attribuées à l'Esprit à partir de la Pentecôte peuvent être comprises aussi comme ce que Jésus, le Messie, accomplit par son Esprit. Par son Esprit. Donc, l'Esprit est le moyen de la présence, en fait, de Jésus auprès des siens. Dans Actes, vous voyez, vous vous rappelez quand Paul est en train dans Actes 18, oui, je crois qu'il est à Corinthe, je crois. Je ne me rappelle pas très bien. Mais là, il est découragé. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a beaucoup de, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Il est persécuté, puis les gens s'opposent à l'évangile. Okay? Puis le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, sois sans crainte, il dit, mais parle, il ne te tait pas, car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quel aspect? Qu'est-ce qui a été promis, si on peut dire, à Paul pour le rassurer? Parle parce que je suis avec toi. Donc Jésus est avec lui. Par son esprit aussi, par sa présence. Jésus, et on le voit dans tous les actes des apôtres, que Jésus est là, l'Esprit Saint est là, et on voit que le Saint-Esprit, il parle, il dirige, on va le voir là, et il envoie des gens, et on voit le Saint-Esprit agir aussi, lorsqu'on choisit même Paul et Silas pour aller prêcher l'Évangile, pour aller en mission. Donc l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit est là, et donc on voit que il est à l'acte, il est actif. Donc on le voit la présence. Comme Jésus a dit dans Matthieu 28, il dit, allez, faites des disciples à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai que quand on dit que Jésus est avec moi, et Jésus est en moi, on fait vraiment allusion aussi à l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu est en nous. Ça équivaut à dire, mais c'est vraiment l'Esprit qui est en nous, de Jésus, qui vit en nous, et qui nous rend capables d'aller jusqu'à la fin du monde, là. C'est vraiment une personne, c'est Dieu qui est avec nous. C'est vraiment un privilège, et c'est là, depuis là, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu de façon permanente. Est-ce que vous avez des... Moi, je parle beaucoup, hein? Désolé, hein? Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de lire ou de dire? Des fois, on dirait que vous avez peur, là. Demandez à mes enfants. Non, non, demandez pas à mes enfants. Oui, malheureusement, il y en a qui disent même que si les gens ne parlent pas en langue, ils arrivent même à dire que c'est un peu le mouvement pentecôtiste, je crois, et au charismatique. Et que si les gens ne parlent pas en langue, et ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut arriver à dire ça? Je ne crois pas. Est-ce que je peux dire que personne parle en langue peut parler en langue? Non plus, je ne peux pas. Il y en a qui se disent qu'ils parlent la langue. Correct, mais là, il y a toute une des positions par rapport à ça, cessationniste ou continuiste par rapport au don de l'esprit. Et ça, c'est toute une discussion, là, mais je crois que ça a été donné lors de la Pentecôte, un peu montré, on voit le but du Saint-Esprit, qu'il vient sur tous. OK, puis ça fait allusion aux nations aussi, hein? Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour les Juifs, là, c'est pour tous les gens. La nouvelle de l'Évangile va s'éteindre après, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. On va le voir, hein? On va le voir la progression de l'Évangile, hein, dans Actes des Apôtres. Vous aurez mes témoins jusqu'à... Et dans le temps de l'apôtre Paul, l'Évangile probablement a été prêché partout, la terre habitée dans le temps. Oui, Pierre? Oui, mais il y a aussi Paul qui parle d'autres, quand il parle aussi des langues, qui édifie, celui qui parle la langue s'édifie lui-même, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui traduit pour l'édification de l'Église aussi. Mais sachez que ceux qui disent que, bon, parler la langue, c'est important, il faut vraiment que, si tu es chrétien, tu parles la langue, si vous voyez... On le voit dans Actes des Apôtres, puis dans quel autre épître? dans Corinthe, puis après, est-ce que vous voyez dans Pierre, dans les autres, on voit rien du tout par rapport aux langues. On peut citer pas juste les langues aussi, les guérisons aussi des fois. Mais malheureusement, c'est vu comme quelque chose que si... Il y a quelqu'un qui a appelé l'autre jour, vous n'avez pas des soirées des guérisons. Il y a quelqu'un qui a appelé ici. En tout cas, c'est Richard qui a pris l'appel. Là, puis là, il était un peu déçu après. On lui a dit, oui, on croit au miracle, là, mais pas ces genres de pratiques, on ne fait pas ça ici. On prie, c'est sûr. Et Dieu opère des miracles parmi son peuple. Est-ce qu'il opère des miracles parmi nous? Oui, je crois que oui. Puis il y a des gens qui sont sauvés. Ça, c'est vraiment un miracle, voir un cœur qui se répand. Vraiment, hein, frères et sœurs, là, quand on voit quelqu'un là qui... Rappelez-vous, là, Paul était un persécuteur de l'Église, OK? Puis comment il a... Des fois, là, c'est pour ça que moi, j'ai l'espoir. J'ai de l'espoir quand je vois ma famille ou mon fils qui ne revient pas à Dieu. Et quand je vois un Paul qui était... il s'est dit lui-même persécuteur de l'Église et qu'il s'est converti et que Dieu a changé son cœur. Ça, c'est vraiment un miracle. Puis c'est possible. Sauf qu'il faut... Il faut prier pour ça. En temps voulu de Dieu, il va faire son œuvre. C'est sûr, si c'est vraiment Dieu qui l'attire vers lui. Ça touche nos émotions, oui. Oui, Dieu utilise nos émotions pour nous attirer vers lui, oui. Il y en a qui sont plus émotionnels que d'autres. Il y en a qui sont plus, comment on peut dire, plus sensibles que d'autres, femmes et hommes. Donc, mais Dieu utilise nos... Mais l'important, c'est que Dieu touche les cœurs, puis l'homme se tourne, oui, se tourne vers lui. C'est ce qu'on appelle on va voir dans les prochaines leçons, et c'est la régénération. Et c'est aussi, c'est l'œuvre de l'Esprit. Paul, il va en parler. Et d'ailleurs, on a lu Tite, je crois. En fait, ce mot, la régénération, c'est mentionné juste dans deux versets. Mais c'est un peu, c'est explicite dans d'autres parties du Nouveau Testament. Donc, on va quand même prendre la peine de voir cet aspect-là en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit. Mais je crois que plus l'œuvre de l'Esprit dans cet aspect-là, oui, c'est vrai, c'est symbolique, le fait que Dieu, Jésus va être, comment je peux dire ça, préparé, dit, est en train de me préparer à l'avance, là, pour ma mort, pour mon ensevelissement. Mais je crois que plus l'œuvre de l'Esprit, c'est la conversion de cette femme-là qui se tourne vers Dieu, qu'elle est pardonnée. C'est encore l'œuvre de l'Esprit dans ce passage-là. Là. Et dans plusieurs passages, on a touché plusieurs passages qui concernent l'œuvre de l'Esprit, la régénération. Et même on a parlé que même avant le ministère public de Jésus, même il y avait des gens qui étaient sauvés déjà, qui avaient été touchés par le Saint-Esprit avait déjà touché. Et on a parlé de plusieurs personnages. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore venu pour l'œuvre, pour... initier la nouvelle alliance et pour, comment je peux dire ça, donner naissance au nouveau peuple de Dieu, que c'est l'Église.